Bonjour à toutes et à tous. D'art et d'histoire vous est présenté aujourd'hui par Catherine Fox avec à la technique Paolo Davi. Le titre de cette émission est « Comment regarder un tableau figuratif » avec peut-être comme sous-titre « Quand on n'a pas vraiment beaucoup de temps, disons 5 minutes ». Nous ne sommes pas dans notre studio d'enregistrement habituel, mais dans un salon dont les murs principaux sont ourlés du sol au plafond, d'étagères garnies entièrement de livres d'art et de catalogues. Nous sommes reçus, et je l'en remercie, par Béatrice Lubin, diplômée de l'École du Louvre et conférencière. À notre époque de zapping, de clics internet, d'offres nombreuses qui captent notre attention pour quelques secondes, nous pouvons être un peu démunis et même frustrés quand nous parcourons de façon non planifiée et de façon spontanée un musée ou une galerie d'art sans conférencière. Faut-il pour autant renoncer au plaisir et à la joie de découvrir une œuvre d'art, un tableau, ou d'aller plus loin que la réaction initiale « j'aime ou je n'aime pas » ou de s'accompagner d'un catalogue qu'on lit un peu laborieusement devant le tableau. Je me tourne donc vers Béatrice Lubin. Bonjour Béatrice Lubin.
Bonjour Catherine Fox.
Et je vais vous demander d'emblée, quelles sont les toutes premières réactions à avoir quand on a choisi le tableau devant lequel on a envie d'arrêter ses pas?
Alors, c'est peut-être d'abord de se laisser absorber par l'émotion. Et puis après, peut-être d'essayer de rentrer dans ce que le peintre a voulu, ou nous montrer, ou nous raconter. Et ce sont deux axes qui sont en effet différents, parce que la peinture peut seulement montrer, ou au contraire être très bavarde, et nous vouloir nous raconter quelque chose. Et là, c'est la composition du tableau qui va justement nous permettre de rentrer dans l'univers du peintre. On a évidemment, les auditeurs auront certainement beaucoup entendu parler de la perspective italienne ou de la perspective flamande, de manière peut-être un peu pompeuse, mais elle aide justement à nous faire cheminer dans l'image.
Alors là, je vous interromps pour quand même, pour nos auditeurs, nous rappeler brièvement ou même nous dire tout simplement pour la première fois, qu'est-ce que c'est que cette perspective italienne et cette perspective flamande?
Alors, elle est inventée à partir du moment où le peintre a voulu rendre de manière illusionniste la troisième dimension, la profondeur. Et c'est peut-être justement ça la première prise en compte que le spectateur a à avoir. Je suis sur un support qui est plan, qui a deux dimensions. Or, on me fait croire qu'il y en a une troisième. Cette troisième dimension, les Italiens ont été, peut-être devrais-je dire rationnels, géométriques. Ça, c'est certain. Ils ont fait deux diagonales, ça a dégagé un point de fuite et ça dégage une ligne d'horizon. Et à partir de ce moment-là, on a les plans, le premier plan, le deuxième plan, jusqu'au dernier. Et les personnages, les paysages, les arbres, tout va s'organiser de cette manière-là. Les Flamands ont eu une observation plus instinctive, qui est celle de voir qu'une couleur, quand elle est près de l'œil, elle est foncée, et plus elle va s'éloigner de l'œil, plus elle va s'éclaircir. Bref parenthèse un peu scientifique, la couleur, c'est comme le son, c'est une longueur d'onde. Donc quand le son est près de votre oreille, il est fort, quand il s'éloigne, il devient plus léger. Donc, premier plan marron, deuxième plan vert, dernier plan bleu, avec... Et là encore, les Flamands étaient peut-être aux premières loges, avec les poteries chinoises, le petit cheminement de la rivière ou du chemin qui emmène du premier plan à l'arrière-plan.
Alors, si on est devant ce tableau, on entend beaucoup parler de structure, et vous nous parlez de structure, est-ce qu'il y a des trucs, entre guillemets, des trucs pour aborder la structure, justement ? Parce qu'elle ne s'impose peut-être pas de façon évidente.
Alors, d'abord, c'est en effet de comprendre ce qu'il y a au premier plan, ce qu'il y a à l'arrière-plan et ce qu'il y a entre les deux. À partir de cela, ce qui va nous faire cheminer, hormis le petit chemin dont je vais parler, ça va être là, justement, la mise en scène, les personnages ou les arbres qui vont Alors, pour parler d'un tableau italien, par exemple, les personnages vont, avec leur corps, leurs bras, leur tête qui vont se tourner, vous emmener, vous guider vers l'intérieur du tableau. Et faire attention justement à cette gestuelle. Et de voir comment on est emmené d'un point à un autre. Prendre conscience, justement, que notre regard a été happé par un point et qu'il va nous être emmené vers un autre point. C'est certainement ça. Prendre conscience, c'est-à-dire prendre le temps. Et après, la couleur va aussi intervenir. Alors, il y en a qui vont être plus sensibles à la couleur et d'autres au mouvement. Ça, c'est, chacun va être différent. Mais c'est vrai que la couleur, et Corot a été un des maîtres en cela, c'est-à-dire toujours mettre un petit point rouge quelque part, parce que ça guide l'œil. Et vous remarquerez, à toutes les époques, ils seront Teniers, David Teniers, par exemple, savait aussi très bien le faire. C'est-à-dire que le petit point rouge récurrent va, en effet, vous emmener d'un point à un autre. Et là, vous allez pouvoir vous rentrer et revenir à votre première impression. Et reprendre la poésie avec, justement, toutes les nuances que le peintre a voulu introduire dans son tableau.
Donc ça, c'est pour, on va dire, donc la structure, les lignes, on suit un petit peu les mouvements. Mettons, si on prend un tableau religieux, une annonciation ou une Mater Dolorosa, un tableau.
J'ai deux choix. Ou ça va être le massacre des innocents de Poussin, ou tout simplement, et peut-être plus facile d'accès, la Vierge au Rocher de Léonard de Vinci. Parce que là, il y a quatre personnages, et justement, il y en a quatre. Et combien réalisent que le quatrième, qui n'a aucun nom, aucune fonction, si on reprend les textes, il vous regarde droit dans les yeux et il pointe du doigt vers où il faut regarder. Et ça, c'est en effet une des caractéristiques de Léonard. C'est d'avoir introduit ce personnage qui prend en compte le spectateur. Pas celui du musée, à l'origine, c'était pas lui, hein. C'était certainement celui qui venait prier devant le tableau. Et il regarde cet être vivant dans les yeux, et son doigt montre bien vers où il faut regarder, c'est-à-dire le Christ, l'enfant Jésus, avec les mains jointes. Mais après coup, on va voir le bras de la Vierge qui enveloppe son enfant, le bras qui remonte et le regard de la Vierge qui redescend sur Saint Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, le regard circule.
Saint Jean-Baptiste, lui, là, vous nous avez parlé donc de structure, de lignes faites par les corps ou par les couleurs. Vous conseilleriez de regarder le tableau à quelle distance ?
Ah, alors là, ça, c'est un vrai problème. La distance va être celle qui va vous être imposée par la hauteur de l'accrochage du tableau. Puisqu'en fin de compte, c'est là où votre regard va être sur la ligne d'horizon. Je dois en effet avertir votre auditoire que la mode en ce moment est d'accrocher les tableaux un peu bas, un peu trop bas. Donc ça oblige, si on veut rentrer dans le tableau tel que le peintre l'a composé, pour qu'il soit vu, ça demande parfois de s'éloigner et justement de reprendre ce rapport par rapport à la ligne d'horizon. Donc il n'y a pas de règle, ça dépendra. Et bien entendu, quand il s'agit de tableaux restés in situ dans les églises, là, ils sont impeccables. Après, il est évident qu'il y a certes, je repense à l'exposition du Gréco, les grands formats, vu les hauteurs de plafond, bien entendu. Mais là, justement, ces grands formats vous obligent à reprendre du recul pour saisir justement toute l'ampleur de la composition.
Vous avez parlé, vous avez utilisé l'expression « rentrer dans le tableau ». Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par cette notion-là et comment faire, en dehors de ce que vous avez bien entendu déjà expliqué? Est-ce qu'il y a des moyens, des façons de rentrer plus dans le tableau qui apportent, on va dire, un autre type de plaisir qui est plutôt peut-être dans le ressenti, dans l'émotion, peut-être que la raison, je ne sais pas.
Alors, si c'est l'émotion et le ressenti, après, il faut se laisser guider par soi, par sa propre émotion. Il n'y a aucun livre d'histoire de l'art qui vous expliquera ça. Après, ce qui est intéressant, c'est en effet de voir comment on peut être subjugué par le tableau. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut se sentir en effet extérieur parce qu'on le trouve beau, trop beau. Et l'idée, c'est d'essayer de dépasser cela pour essayer vraiment de l'apprivoiser en fin de compte. Et c'est vraiment le temps. Prendre 2 secondes, s'asseoir.
Vous, nous n'avons que 5 minutes pour regarder le tableau.
Ah oui, alors là, c'est possible. Oui. Ben alors là, on triche. On prévient le rendez-vous qui suit qu'on va avoir un peu de retard à cause des transports en commun. Parfaitement louable en ce moment. Donc, on va... ce que j'aime aussi dire, justement, pour franchir cette barrière de « Ah, c'est beau », c'est de penser à la manière dont il a été fait. C'est de la peinture, c'est des pinceaux, c'est une toile. Et j'aime toujours dire, quand je commente un tableau, imaginez que c'est vous qui tenez le pinceau. Et à ce moment-là, on le regarde non plus comme une image, mais comme le processus de réalisation de ce tableau. On regarde la matière, on regarde les coups de pinceau, on ne regarde pas une dentelle magnifique. On voit les traces de blanc et comment de loin c'est une dentelle qu'on aurait envie de porter et comment de près on a cette magie des coups de pinceau et la rapidité, l'empattement. Et ça, c'est vrai que, au risque de vous contrarier, il faut peut-être un peu plus de 5 minutes pour regarder le tableau.
Alors je tiens quand même à mes 5 minutes. Et je me souviens, quand nous avons un petit peu discuté ensemble, vous m'avez parlé, j'avais trouvé ça très intéressant, cette notion de regarder certains détails. Par exemple, justement, vous parlez de la dentelle, vous m'aviez parlé du velours, par exemple, de ressentir, de voir ce velours. On peut même mentalement se dire physiquement, je caresse le velours. Ou de regarder un vase ou un petit chien, quelque chose comme ça qui vous amène dans une certaine réalité.
Tout à fait. Et je me souviens très bien, j'avais parlé d'un tableau de Yann Bruegel de Velours du Louvre sur un des 4 éléments, la terre, où tout petit, mais je crois que ça, c'est même pas 1 centimètre, il y a un hamster. Et on voit tous les poils et la fourrure de ce hamster. Et c'est là où justement l'idée de se dire, c'est moi qui ai le pinceau et qui dois faire le hamster. À ce moment-là, on ne voit plus la fourrure. On voit comment elle a été faite, mais après, on se rend compte de la magie parce qu'on a envie de le caresser.
Merci pour cette première partie de notre émission. Nous allons écouter un morceau de musique d'un compositeur que vous avez choisi et nous allons nous retrouver après. Béatrice, d'avoir choisi ce morceau de musique. Nous allons continuer et nous allons continuer sur une question très banale. La méthode que vous nous avez indiquée, elle s'applique, on va dire, à un groupe. Vous nous avez parlé, par exemple, de Léonard de Vinci, nous pouvons penser à la Vierge au Rocher, mais est-ce qu'elle s'applique également à tout type de tableaux, que ce soit des paysages, des tableaux de genre, des grands tableaux historiques, de batailles, ou tout simplement un portrait où il n'y a qu'un seul individu ou une seule femme qui est peinte?
Alors oui, ça s'applique à tout. Il est peut-être justement plus facile de le voir quand c'est un tableau, pour reprendre la hiérarchie de l'Académie, un tableau d'histoire, qu'elle soit mythologique ou histoire contemporaine ou histoire antique. Il y a inévitablement une narration, donc inévitablement il y a des groupes et on voit très bien ces lignes se construire. Paysage, évidemment, là encore, le spectateur va en effet très rapidement les sentir, ces lignes-là. Là où ça va devenir un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire moins instinctif, ça va être en effet le bouquet de fleurs ou le portrait, parce qu'on a un objet qui nous est frontalement présenté. Et c'est là où, en effet, il faut prendre la subtilité. Alors, pour le bouquet de fleurs, banalement, ça va être les points de couleur qui vont évidemment construire le volume du bouquet et faire rentrer dans cette dimension botanique. Là encore, je vais citer les Flamands parce que prendre là encore, faire attention parce que au détour, vous allez découvrir une chenille, un moustique, une mouche, une bestiole. On dit toujours nature morte en français, mais ne jamais oublier que quand vous dites le mot en flamand, ce que je ne me permettrai pas de faire, c'est quand même une nature vivante ou une nature calme qu'il s'agit de présenter. Donc là encore, bon, une fois que vous avez ces petits trucs-là, vous le verrez. Le portrait, c'est encore plus complexe parce que là, on a quelqu'un qui va nous capter, on nous montre quelqu'un qui va nous capter avec son regard. Et il va falloir, nous, être curieux et se dégager de ce regard pour aller regarder ses mains, pour aller regarder son vêtement. Souvent, en plus, le fond du tableau est sombre.
Je pense, par exemple, à l'homme au gant du Titien.
Oui, voilà, tout à fait. Donc, alors là, justement, l'homme au gant, il nous offre quand même des choses pour rentrer dans le tableau. Les gants, donc les mains et tout le mouvement du corps. Et on ne s'en rend pas compte au premier abord, mais il y a quand même un mouvement du corps. Il y a une épaisseur, ça tournoie. Après, et là encore, je crois que votre auditoire va être plus sensible aux matières. C'est certain. On en parlait pour le petit hamster. C'est certain que dans les portraits, on va avoir envie de sentir le velours, la texture du cuir. Et c'est vrai que ces lignes, et pour le portrait, les bras, parfois ils posent avec une épée, donc ça donne une belle diagonale. Vous avez la ligne de bouton. Imperceptiblement, il y a des lignes de construction.
Mais le regard aussi, parce que quand on voit un être humain, un portrait, on a envie de savoir, mais qui est cette personne? Et le regard, souvent, est quand même assez... Ça traduit quelque chose.
Tout à fait. Et là, justement, on rentrerait dans un sujet qui est fort apprécié par les spécialistes, c'est en effet le portrait psychologique ou pas portrait psychologique, intention du peintre d'essayer de rendre l'âme. Je pense au tailleur de Moroni, par exemple, où cet homme, avec devant sa table avec ses ciseaux, et le regard qu'il peut avoir. Et c'est un artisan, c'est pas Comte de Médicis, donc le grand-duc. Donc il y a en effet cette intention de rendre la personne vivante, et c'est évidemment le regard. Et le talent du portraitiste se situe souvent à la manière dont il réussit l'expression du visage. Mais ne jamais oublier, parce que ça c'est ce qu'on voit en premier, c'est sur ce que j'essayais de dire, c'est regarder plus bas. Le corps, le vêtement... et les accessoires qui aident justement à construire l'espace et à donner des détails supplémentaires au portrait psychologique qui est proposé.
Alors, vous nous parlez de portrait psychologique, ça me mène tout naturellement vers une question sur le sens. Parce que le sens est une grande question. Chaque tableau a sa raison d'être. Alors, vous allez me dire que beaucoup sont des commandes. L'aristocrate de la noblesse de l'époque ou de l'Église. Donc là, il y a un sens religieux souvent ou un sens de pouvoir, de publicité, au fond, si j'ose dire, de marketing du prince de l'époque. Mais il n'y a pas que cela, je pense.
Alors, d'abord, ils sont tous des œuvres de commande. Donc, il y a toujours à avoir en tête que le commanditaire a donné des directions aux peintres. et que le peintre cherchait à satisfaire au plus près ses recommandations. Après, il est vrai que il y a eu, je me souviens, un documentaire très intéressant sur un portrait de Léonard où la couleur du bleu en italien contenait le nom de Léon, donc de Léonard, et que alors là, c'est affaire de spécialistes et d'iconographes qui vont, si vous me le permettez, couper le cheveu en quatre. C'est pas tout à fait moi qui le dis, je fais référence ici à Daniel Arras, célèbre iconographe, qui justement disait que fallait peut-être parfois ne pas trop chercher de sens, mais il y avait en effet à se laisser guider par les détails incongrus, et en effet se dire qu'est-ce qu'on a voulu nous dire. Un escargot qui passe par-ci, par exemple.
Un symbolisme, donc.
Exactement.
Vous parlez de la mouche qui est plus ou moins associée à la mort. Enfin, un petit rappel de la mort. La chenille peut être la transformation. Donc, ces bouquets de fleurs ne sont pas, comme vous le disiez vous-même, anodins.
Non, pas du tout. Mais, là encore, c'est l'auberge espagnole. Chacun va y trouver le sens qu'il a envie d'y trouver aujourd'hui. L'idée d'introduire la fragilité ou le côté éphémère de la beauté est, à mon sens, c'est comme ça moi que j'aime les voir. Je n'irai peut-être pas aller trop dans la chose universelle sur la mort, le périssable, peut-être pas. C'est peut-être mon optimisme personnel qui me fait aller vers cela. Mais il y a la chose qui va être historiquement remise dans son contexte et qu'une petite notion d'histoire générale permet facilement de prendre en compte. Il ne s'agit pas d'avoir lu toutes les tonnes de livres. Et puis, il y a aussi son propre ressenti, se poser une question. On discutait justement de la chute d'Icare. Et c'est là aussi où un élément intéressant intervient, le titre du tableau. Parce que vous allez savoir que c'est la chute d'Icare parce que vous avez lu le titre. Et si vous regardez le tableau, c'est tout petit dans le fond du tableau. Ce que vous allez avoir en premier lieu, je cite évidemment pour les non-initiés qu'il s'agit d'un tableau de Peter Bruegel l'Ancien, avec multiples copies du fils, mais c'est de l'Ancien dont je parle. Et en effet, on voit au premier plan un paysan monumental, presque en déséquilibre par rapport à la côte italienne, et on aurait presque la sensation qu'il pourrait même tomber si on se laisse un peu emporter par sa rêverie et son observation. Donc, en effet, au jour d'aujourd'hui, la chute d'Icare, on peut l'interpréter à sa propre sauce. Jamais perdre de vue qu'évidemment les Flandres vont être beaucoup plus protestantes que catholiques et qu'il y a parfois des sens plus à relier sur le protestantisme que sur le catholicisme. Malgré tout, il faut savoir qu'ils ne cherchaient pas du tout à s'opposer et qu'une interprétation peut en valoir aussi une autre. Donc,
Alors, vous avez parlé du sens caché. Maintenant, parlons peut-être un petit peu des difficultés que peut rencontrer notre visiteur de musée, de galerie qui veut passer d'un tableau à un autre, mais en passant, comme nous l'avons dit, 5 minutes environ sur certains tableaux. Quelles sont les difficultés et comment faire pour essayer d'amoindrir leur impact ?
L'impact de quoi ?
L'impact de ces difficultés quand ils regardent un tableau dans un musée. Par exemple, vous avez parlé de l'accrochage qui peut être un petit peu compliqué.
Se faire confiance. Quand on trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est vous qui avez raison. Et au contraire, s'arrêter à chercher justement qu'est-ce qui cloche. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait des études d'histoire de l'art que ça vous est hermétique ou interdit. Si j'osais, je dirais, il n'y a jamais aucune question idiote. Parce que le nombre de fois où, justement, les intervenants dans mes groupes me disent « j'ai une question idiote », non, il n'y a aucune question qui est idiote.
Mais là, notre visiteur est seul, hein,
mais n'oublions pas. Oui, mais il peut se la poser à lui-même.
D'accord.
On peut dialoguer avec soi-même. Et se dire, justement, se faire confiance. Et ne pas dire « ça n'est pas pour moi ». C'est obligatoirement pour vous, puisque ça a été fait pour être vu par un plus grand nombre au moment où ça a été commandé.
Alors, je vais vous poser la question un peu, si j'ose dire, iconoclastique. Quel est l'intérêt de voir le tableau en vrai ? Parce qu'après tout, on est seul, On pourrait très bien être en train de feuilleter un livre avec des détails remarquablement bien faits, avec un texte qui nous apprendrait pas mal de choses. Pour vous, quel est le plus de voir un tableau malgré les quelques difficultés que l'on peut rencontrer ?
L'émotion, parce que la lumière sur la matière vraie du tableau, la taille même, parce que quand vous êtes sur une photo de magazine, vous n'êtes pas obligatoirement au fait de la taille du tableau, même si vous les lisez, il faut parfois reprendre un centimètre pour dire, ah oui, exemple typique, la dame de Brassempouille, et je m'excuse, peut-être je ne le prononce pas correctement, minuscule, mais quand on la voit en photo, je me souviens de mes études à l'école du Louvre, je cherchais en statue monumentale, jusqu'à ce que je réalise que c'était une toute petite tête dans une vitrine.
Quelques centimètres.
Exactement, tout à fait. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de se confronter à la matière, parce que la lumière va réagir en fonction du temps, alors que le photographe qui l'a eu dans son studio a bien pu calibrer le tout. L'émotion aussi, mais... Et là, je vais citer quelqu'un qui est un original, mais très brillant, Hector Obalk, qui, justement, dans ses petits documentaires, nous force, et grâce à la photo, à aller fouiller le détail en l'agrandissant. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Je dirais véritablement cela, parce que, justement, il nous apprend à aller fouiller le détail. Et le tableau n'en est que plus intéressant quand après on va le voir en vrai.
Est-ce que l'on pourrait dire que, d'une certaine façon, là ça a l'air un peu contradictoire, le tableau est beaucoup plus la vie que l'image beaucoup plus plate, même si elle est bien photographiée, que l'on voit dans le livre?
Absolument, il y a une profondeur, la profondeur du rapport qu'on a personnellement, la distance que l'on a avec le tableau.
Et ce que vous disiez également, la matière.
La matière, absolument, ça c'est...
On a pris le côté
ablatif. Totalement.
Là, notre topo est sur les tableaux figuratifs, plutôt, on va dire, de l'époque classique, bien que beaucoup des choses que vous nous avez dites pourraient parfaitement s'appliquer aux tableaux du 19e siècle, en ce qui concerne la structure, les couleurs, l'émotion, ça ne change rien, me semble-t-il. Mais la matière, même, j'allais dire, pour des tableaux abstraits, si on regarde les noirs de Soulages, les voir imprimés,
ça ne rend rien du tout.
Alors
au contraire, un tableau de Soulages se regarde droit dans les yeux, si j'ai envie de dire. Il faut le voir en vrai, parce que c'est là où véritablement vous allez comprendre que son noir n'est pas que noir.
Donc on est ramené à la notion de couleur, en fait, à nouveau.
Tout à fait.
Et du côté vivant de la couleur. Et donc, nous avions parlé de l'entourage du tableau qui peut avoir son impact. Nous avons parlé de la structure, des détails, du sens. Je crois que nous avons vraiment fait le tour de ce que nous pouvons espérer comprendre et voir en 5 minutes avant de se plonger à nouveau peut-être dans les livres, dans les revues. Merci beaucoup Béatrice Lubin de nous avoir reçus ainsi chez vous, à la fois dans votre salon et dans votre bureau qui est tapissé, je dois le dire, d'une quantité de cartes qui viennent de différentes expositions à touche-touche. C'est un décor très agréable et très chaleureux que certaines personnes auraient peut-être envie d'imiter sur un pan de mur. Merci encore et je remercie notre auditoire. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission à nouveau en podcast sur notre site radiograndciel.fr et je vous dis à très bientôt pour une autre émission sur la suite des cinq sens que nous avons inaugurés aujourd'hui avec Béatrice Lubin sur la vue.